Voilà, Code 9 démarre tout de suite d'ailleurs avec Louise Jouve qu'on retrouve aujourd'hui, non pas avec une rubrique, mais un invité. Bonjour Louise.
Bonjour.
Alors, cet invité, il s'appelle...
Clément Pouwels,
Et il est...
égyptologue, fraîchement diplômé de Lille 3 et il travaille actuellement, il travaille encore sur l'exposition Sésostris 3 au
Voilà,
Palais
donc
des
une
Beaux-Arts.
exposition qui a été très bien, on va dire, repérée, cotée, beaucoup de bons échos sur cette exposition. Donc on peut dire une exposition qui est originale, avec aussi des objets qui font partie, d'une certaine manière, de la collection de Lille 3, qui ont
Oui,
été
tout à
amenés là.
fait. Et Clément va sûrement nous en
Voilà,
parler.
donc c'est intéressant de voir aussi en quoi une université régionale recèle de trésors qui sont montrés à certaines occasions, c'est le cas aujourd'hui.
Tout à fait. Donc Clément Pouwels, égyptologue fraîchement
Bonjour.
diplômé de Lille 3.
Tout à
Donc
fait.
vous avez travaillé sur l'exposition Sésostris 3, qui est actuellement donc au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 25 janvier
C'est ça.
2015. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et comment vous êtes arrivé jusqu'au Palais des Beaux-Arts de Lille?
Alors moi je suis un pur étudiant de Lille 3 en fait, puisque j'ai d'abord fait une licence de lettres classiques à l'université Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq avec option archéologie pour m'ouvrir un peu des portes. Et ensuite j'ai eu la chance de faire un master recherche avec le professeur Didier de Vauchelles qui est donc le professeur d'égyptologie de Lille 3. Ensuite j'ai fait un peu une espèce de césure pour préparer des concours de l'enseignement que malheureusement j'ai échoué. Et ensuite je me suis reconverti, si l'on veut, en faisant un autre master pro dans les métiers des musées, qui s'appelle en fait la filière gestion des sites du patrimoine, GSP, toujours à Lille 3, et qui m'a permis d'avoir de superbes stages pour rebondir après professionnellement.
D'accord, et donc suite, donc vous avez fait votre stage au Palais des Beaux-Arts, c'est
Oui,
ça?
c'est ça. Le stage de fin d'études, j'ai eu la chance de contacter en fait Madame Fleur Morfoise, qui se trouve être une des deux commissaires de ce grand projet, cette exposition Sésostris 3, qui était ma maître de stage en fait au printemps 2013. Et
D'accord.
voilà, la mairie de Lille m'a gentiment rappelé en juillet-août 2013 pour me proposer un des postes qui s'ouvrait. Et donc j'étais parmi les candidats retenus
Pour
pour
l'exposition
l'exposition.
Sésostris
Donc c'est
3.
moi qui ai eu le poste d'assistant pour un an.
D'accord. Et donc, quel a été votre rôle, votre intervention sur l'exposition?
Alors moi j'ai été recruté essentiellement pour m'occuper du catalogue d'exposition, puisque en général quand on organise une grande exposition qui ne dure en général que 3 mois, 3 mois et demi, à la fin toutes les œuvres repartent dans les musées d'origine et ce qui reste c'est juste la publication. Et donc moi mon rôle c'était un peu de collecter tous les articles des auteurs qui étaient donc en 4 langues différentes, de plusieurs nationalités, de les faire traduire avec les traducteurs habilités, de récolter toute la documentation iconographique, toutes les photos, et de faire le lien entre en fait le musée de Lille et l'éditeur qui a été retenu. Donc notre éditeur c'était Snook Édition, un éditeur belge.
D'accord, donc coordinateur éditorial du catalogue
Tout à fait.
de l'exposition Sésostris 3 et gestion des images.
C'est ça.
Et donc aujourd'hui, vous êtes guide conférencier, toujours sur l'exposition.
Oui, c'est une manière de rebondir un peu à la fin d'un contrat. Et puis, c'est une manière de faire vivre aussi l'exposition, puisqu'on a une demande vraiment exponentielle en visite guidée. Et donc, le Palais des Beaux-Arts a recruté des guides en plus. Et bien sûr, j'étais candidat parmi ces guides. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir des publics différents. Ça va des élèves du CP ou CE2 à des comités d'entreprise, en passant par des familles, des personnes en réinsertion sociale. Et on a vraiment tous les types de publics qui viennent voir l'exposition.
Et auquel il faut s'adapter à
Et
chaque
auxquels il
fois.
faut s'adapter.
Et moi j'ai une question, est-ce que vous avez beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent à Lille pour visiter cette exposition?
Pour l'exposition, on n'a pas encore les chiffres parce que on n'est ouvert que depuis un mois. On a ouvert le 9 octobre 2014. Donc ça fait oui, tout juste un mois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le Palais des Beaux-Arts en général, on a oui entre 10 et 15% de visiteurs belges et presque autant, il me semble, de visiteurs anglophones. Mais
D'accord.
ça, j'ai pas les chiffres exacts en tête,
Oui.
mais oui, les visiteurs étrangers font une bonne part des visiteurs du Palais des Beaux-Arts.
D'accord. Et donc vous faites aussi des visites en anglais.
Oui, tout à fait, oui. Je
D'accord.
charge quelques visites en anglais, essentiellement pour des comités d'entreprise pour l'instant, mais qui
Vous avez
sait.
beaucoup de compétences. Vous avez travaillé sur le catalogue, donc des
Mais il
compétences
faut.
rédactionnelles,
Il faut avoir plus
linguistiques.
d'une corde à son arc dans ces métiers-là parce qu'on ne peut pas être juste assistant sur un point précis, genre juste analyser des devis d'assurance
Oui.
ou des devis de
Faut être
n'importe
très
quelle autre entreprise.
polyvalent.
Il faut être polyvalent, il faut avoir au moins une ou deux langues dans son bagage. Oui, puis pas avoir peur de rédiger des textes, quoi.
D'accord, très
Se
bien.
jeter à l'eau.
Et donc, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur la préparation de l'exposition? Quel était votre rôle précisément? La composition de l'équipe?
Oui, parce que bien sûr. En fait, il faut savoir d'abord qu'une exposition de cette envergure, qui a un budget conséquent, ça ne se prépare pas juste en quelques mois, ni une année. En fait, c'est une exposition qui s'est préparée depuis 3 ans, qui a 2 chefs de projet. En fait, Madame Guillemette André-Lanoé, qui était pendant plusieurs années directrice du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, donc une grande dame de l'égyptologie française, et bien sûr Madame Fleur Morfoisse, qui est la conservatrice des objets d'art et des antiquités au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc ce sont vraiment les 2 chefs du projet. Et moi, j'ai eu la chance d'assister les 2 commissaires, mais dans l'équipe, bien sûr, il y avait ma collègue Karine d'Hôtel de Vraise, pour la mentionner, qui était donc l'assistante à temps plein de Fleur Morfoisse. Et puis, bien sûr, il y a tous les services du musée qui nous accompagnent. Ça, c'était vraiment le pôle conservation que je vous ai cité à la tête de l'exposition. Mais on a, bien sûr, toute la communication qui nous suit et qui appuie la recherche de mécènes, de fonds pour faire fonctionner ce projet. On a, bien sûr, la mairie de Lille et tous les autres services de la mairie. Au musée, on a aussi les services administratifs et financiers. Bien sûr, les équipes techniques et muséographiques qui sont nos gars qui vont monter vraiment l'exposition au moment où on réalise le projet lui-même, à la toute fin. Et bien sûr, les ressources humaines, puisque c'est un peu grâce à eux que j'ai eu ce poste.
D'accord, donc beaucoup de travail et de personnes qui se cachent derrière toute cette exposition et voilà. On ne se rend pas forcément compte lorsqu'on visite.
En fait, sur les 3 années, on peut dire que pendant 2 ans, c'est vraiment juste l'équipe de conservation qui est mobilisée. Mais plus on approche de l'inauguration et plus le nombre de services est grand qui sont concernés par l'exposition. À la fin, finalement, on peut dire que les 100, 120 employés du Palais des Beaux-Arts ont travaillé pour l'exposition
les
derniers jours.
D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus fastidieux? Qu'est-ce qui a été le plus fastidieux pour la mise en place de cette exposition?
Le plus fastidieux, on pourrait dire que c'est peut-être les exigences des prêteurs, parce que vous savez, quand on demande en prêt des œuvres d'art, la plupart du temps uniques au monde, et notamment pour ces œuvres-là qui ont 3800 ans d'histoire, donc ce sont des prêts tout à fait exceptionnels qu'on a réussi à avoir, notamment de musées anglais ou américains. On a des prêts exceptionnels du Metropolitan Museum de New York, de Boston, de Baltimore, mais aussi du British Museum à Londres, de musées allemands comme le musée de Berlin. Et en fait, le musée qui organise une exposition est censé tout payer, le transport, les assurances, et veiller à ce que tout se passe bien. Mm-hmm. Mais évidemment, celui qui prête son œuvre, il est en droit d'exiger que toutes les conditions soient remplies.
Oui.
Et donc, en général, les conditions de conservation préventive commencent à être un peu les mêmes à l'international, savoir qu'on contrôle, bien sûr, la température, l'hygrométrie, toutes ces sortes de choses pour veiller à ce que l'œuvre ne soit pas détériorée, bien sûr, pendant le transport et le temps de l'exposition. Mais on a certains musées prêteurs, que je ne pourrais pas vous citer ici, qui sont très fastidieux dans leurs demandes. Et malgré le fait qu'ils nous prêtent des objets qui n'ont pas l'air très fragiles, parce qu'il s'agit de pierres très dures qui ont traversé 4000 ans d'histoire, on a des demandes assez particulières des fois, auxquelles on est obligé de s'adapter.
Et il me semble aussi que c'est ce qui coûte peut-être le plus cher dans l'organisation d'une exposition comme celle-ci, c'est
oui, bien sûr.
Le prêt d'objets.
Le budget de l'exposition, il est calculé de manière un peu fictive, mais on essaye qu'il soit réaliste le plus possible. Mm-hmm. Et bien sûr, ce qui coûte le plus cher sont les transports des œuvres d'art, les assurances, bien sûr. Ce qui vient ensuite, c'est la scénographie, puisqu'encore une fois, on fait des vitrines ou des simèses sur mesure pour des objets uniques au monde, des sumaises et des vitrines qui ne vont durer en général que 3 mois et demi. Après, on essaye en général de les récupérer dans une démarche équitable, mais ce n'est pas toujours possible.
D'accord.
Voilà, c'est ce qui coûte le plus cher dans l'exposition.
Et donc, vous en savez long donc, sur cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre regard sur ces Ostrices 3, donc nous présenter l'exposition?
L'exposition...
Et peut-être aussi ce que vous préférez, vos pièces préférées.
Eh bien, l'exposition, en fait, on l'a déployée, enfin plutôt les commissaires de l'exposition l'ont déployée en 3 moments, 3 grands thèmes où tout le monde peut un peu s'y retrouver. Le premier grand thème, c'est la société égyptienne. Donc, on l'a intitulé Pharaon, sa cour et ses sujets. Et donc, on dresse un portrait de la société égyptienne en partant du pharaon, le personnage le plus important de la société, jusqu'au simple paysan. Ensuite, la deuxième grande section, c'est un empire toujours plus vaste. Et en fait, c'est consacré aux conquêtes de Sésostris III. Parce qu'en fait, c'est un roi qui a régné que 19 années. C'est pas très long pour un règne de pharaon, quand on sait que Ramsès II, il a régné plus de 60 ans. Mais c'est un roi, en 19 années, il a fait 4 campagnes militaires. Donc la guerre, c'est vraiment la grande affaire du règne de Sésostris III. Et on a fait une grande section là-dessus. Et aussi sur tous les contacts diplomatiques qu'il y a avec les principautés du Proche-Orient, les rois de Byblos, qui étaient extrêmement riches et qui étaient en fait des voisins tout à fait friands d'objets égyptiens à cette époque-là. Et la troisième section, c'est plus général, ça s'appelle Le monde des dieux, le monde des morts. C'est pour évoquer un peu la religion égyptienne au Moyen-Empire, mais en mettant le doigt un peu sur des questions qui font débat. Par exemple, où est la vraie tombe de Sésostris III ? Puisqu'on a un pharaon, mais on a deux tombes, une pyramide et une tombe cachée. Donc, ce sont des questions qui font toujours débat chez les égyptologues. D'autres choses, ce sont la place qu'avaient ce qu'on appelle les nomarques, en fait, qui sont des chefs de nomes, des chefs de province, avec qui l'administration pharaonique doit un peu ruser pendant tous les règnes de ces pharaons-là, les Sésostris et les Aménémates. Il y a vraiment une tension entre le pouvoir pharaonique absolutiste qui essaye d'être un peu comme Louis XIV, de faire main basse sur tout le pays, et puis les princes de région qui sont quelquefois un peu indépendantistes.
D'accord. Et vous, quand vous faites une visite, quel est votre moment préféré, les objets que vous préférez peut-être présenter ?
Un des objets que je préfère, c'est vraiment un qui est au cœur de l'exposition, dans la section sur les conquêtes, c'est un sphinx. Que vous avez peut-être vu sur certaines affiches de communication du musée, un sphinx en gneiss, c'est une pierre très dure et veinée, donc il y a plein de nuances de gris en fait dedans, noir et gris, et ça suggère vraiment admirablement la musculature du lion qui est prêt à bondir.
Oui.
Et en même temps la tête, elle est très expressive parce que c'est la tête donc de Sésostris III, bien sûr, qui est une tête avec des rides sur le front, sur les joues, les yeux sévères,
une tête
globuleux,
très particulière.
Voilà. Il invente vraiment un nouveau portrait dans la statuaire.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler donc des recherches de l'île 3, puisque René en a parlé.
Tout à fait, oui, c'est vrai qu'il faut mentionner l'Université l'île 3, qui est en fait l'une des trois grandes institutions qui organise cette exposition. Bien sûr, il y a le Palais des Beaux-Arts, mais en soutien, on a l'Université l'île 3 et le Musée du Louvre. L'Université l'île 3 est importante parce qu'elle nous a déposé au musée en 2006 toute sa collection d'archéologie égyptienne. C'est à peu près 3000 objets. 3000 objets qui ont été donnés à l'Université l'île 3 par le gouvernement du Soudan à l'issue des fouilles archéologiques que l'université avait réalisées dans les années 60. Puisque l'Égypte moderne, donc en 1960 et les années qui ont suivi, a érigé un grand barrage à Souan, au sud de l'Égypte, pour moderniser donc son industrie. Mais malheureusement, ce barrage sur le Nil a créé un grand lac artificiel, le lac Nasser, qui a inondé toute la région au sud de l'Égypte et du Nord-Soudan. Et donc on a tous ces sites archéologiques qui menaçaient de disparaître. L'UNESCO a fait appel à des égyptologues du monde entier pour fouiller ces sites en urgence. Et Jean Vercouter, l'égyptologue de l'île 3, a eu la concession d'un de ces sites, qui était justement une forteresse du règne de Sésostris III. Et en récompense de ces 8 années de fouilles, puisqu'il a fouillé jusqu'à temps que les eaux complètement submergent le site, en récompense, un peu le gouvernement du Soudan a fait don de 3000 objets à l'université.
D'accord. Et est-ce que des membres de cette équipe aujourd'hui pourraient témoigner
De l'équipe des fouilles, on a encore Madame Brigitte Gracien, qui est un témoin privilégié, qui faisait partie donc des auteurs du catalogue, qui donne une conférence d'ailleurs prochainement au Palais des Beaux-Arts, qui est un peu la dernière personne qui a vécu cette campagne de fouilles. Je pense qu'à l'époque, elle était étudiante, accompagnant les égyptologues sur le terrain, étudiante de l'île 3. C'est un peu la dernière personne qui a fouillé ce site.
Et est-ce que cette personne, justement, on va parler peut-être des événements que donc, vous avez organisés tout autour de cette exposition Sésostris III, est-ce qu'elle va intervenir notamment ?
Tout à fait. En fait, on a un programme de conférences un peu grand public qui est destiné un peu à tout le monde. On avait une première qui était début novembre, c'était le 5, je pense, mais c'était donné donc par Madame Fleur Morfois. On en a une deuxième le 19 novembre donnée par Madame Guillemette Andreux, donc qui est l'autre commissaire de l'exposition, qui elle parlera plus précisément de cette période du Moyen-Empire au Louvre, avec les chefs-d'œuvre en fait que le Louvre a prêté à Lille. Et donc la troisième conférence, donc c'est donnée par cette personne dont je vous parlais, le professeur Brigitte Gracien, professeur à la retraite, qui va nous parler justement de cette aventure des fouilles de l'Université l'île 3 dans les années 60. L'aventure vraiment sans pareil dans l'histoire de la faculté de Lille.
D'accord. Et donc il y a aussi beaucoup d'événements pour les étudiants.
Bien sûr.
Notamment des nocturnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, on a plusieurs nocturnes gratuites à chaque fois, je précise, qui sont destinées principalement aux étudiants ou aux gens qui auraient peut-être un petit peu moins de moyens ou que le tarif d'entrée rebute un petit peu. On a bien sûr le jeudi 27 novembre, où là c'est un petit peu particulier parce que le public pourra suivre des étudiants de Sciences Po Lille, avec qui le musée a un grand partenariat, et les étudiants de Sciences Po vont faire un peu la médiation dans notre exposition. On a d'autres dates, bien sûr, le mercredi 3 décembre, de 19h à 22h, ça c'est la nuit du modèle vivant. Donc c'est vraiment une soirée pour visiter l'exposition et s'essayer au dessin, c'est gratuit également.
Et c'est autour donc de l'exposition
C'est toujours autour de l'exposition Sésostris. On a deux autres nocturnes, le 20 décembre et le 24 janvier, où l'entrée est libre. Et enfin, un dernier événement nocturne un peu plus particulier qu'on appelle la Silent Party, qui est en fait un concert en silence où des DJ en fait mixent la musique et où vous êtes relié à un casque au DJ que vous sélectionnez dans le musée.
D'accord.
Donc c'est un truc un peu
innovant.
Un peu innovant, voilà, qui a déjà été fait une ou deux fois. Ils sont en partenariat avec l'aéronef de Lille.
D'accord. Et donc il y a aussi des visites aparté pour les étudiants.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous nous expliquez le concept rapidement?
Les visites aparté, donc c'est en général réservé aux moins de 26 ans et aux étudiants. Et le but, c'est de pénétrer un peu les coulisses du musée. Parce que plutôt que de faire une visite guidée un peu bateau, je dirais, qui nous promène dans toutes les sessions de l'exposition, là on va montrer au public un peu les coulisses du musée et faire parler quelqu'un qui n'est pas guide ni médiateur. En général, c'est quelqu'un qui est de la conservation ou bien de la communication ou des ressources humaines ou de l'équipe technique qui va essayer de montrer un peu son travail. Mmh. Et donc la prochaine, par exemple, c'est jeudi 11 décembre et c'est monsieur Jean-Marie Dautel qui est le responsable de tout ce qui est photographie au musée.
D'accord.
Qui va nous présenter la petite exposition qui accompagne Sésostris III, qui s'appelle Révélateur d'Égypte. C'est une exposition de photographies anciennes qui raconte l'aventure des fouilles égyptologiques françaises au XIXe siècle.
D'accord, donc une occasion d'avoir un contact avec une personne.
Voilà, un autre regard,
ouais.
Un monsieur qui est commissaire de cette exposition de photographies.
D'accord, très bien. Et donc, vous, vos projets maintenant, parce que après l'exposition Sésostris III, quels sont vos projets?
Pour l'instant, j'avoue que je mords bien à l'hameçon du travail de guide conférencier, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Le contact avec le public, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout pendant les 2 ans de préparation de l'exposition. Et moi, je me découvre vraiment une passion pour ça, de rencontrer des différents publics. Mais après, bien sûr, j'aimerais trouver un poste un peu plus fixe, donc les concours de la fonction publique, je pense, seront un passage obligatoire.
Oui.
Toujours dans la conservation préventive, assistant ou attaché, voire conservateur.
Donc plutôt rester dans les métiers du musée.
Oui, c'est vraiment ça qui me...
Moins axé sur la recherche, mais...
Oui, bah c'est vraiment avec ce master pro que j'ai fait, les stages que j'ai eus, je me suis vraiment découvert une passion pour tout ce qui touche au musée, de près ou de loin. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment rester là-dedans. Il y a beaucoup à faire, surtout dans le Pas-de-Calais, où on est la région des musées, donc la région la plus riche en nombre de musées après l'Île-de-France.
D'accord, très bien. Et donc, pour plus de renseignements, donc on sait déjà qu'il y a ce catalogue, gros volume sur lequel vous avez travaillé. Mais il existe aussi d'autres supports qui sont disponibles, notamment à la boutique du Palais des Beaux-Arts.
Oui, on a vraiment travaillé avec le gérant de la boutique du Palais des Beaux-Arts pour qu'il y ait vraiment un beau choix de livres ou d'autres produits disponibles. Pour ceux qui aiment la lecture, bien sûr, on a le catalogue de l'exposition qu'on a réussi à avoir pas très cher. Donc il est vraiment à 35 euros pour vous dire. Un catalogue d'exposition dans un musée parisien, c'est en général 45 ou 50 euros, voire plus. Donc là, il y a vraiment ce catalogue qui est bien fait, c'est le premier ouvrage sur le Moyen-Empire en français. Donc on a vraiment pris les spécialistes du monde entier, on les a fait traduire en français, et c'est un ouvrage très illustré, avec des articles pas très longs, mais qui font vraiment le point
Quelques articles que vous avez écrits, notamment
Moi, j'ai eu la chance d'en écrire un, oui, à la fin, sur la postérité du pharaon, qui est devenu un pharaon légendaire, après, dans la littérature grecque et latine, mais ça, c'est vraiment une petite touche dans ce grand ouvrage. Mais sinon, pour les étudiants, bien sûr, on a un spécial dossier de l'archéologie, qui est une revue qui se vend à, je crois, 9,90 euros. En fait, c'est presque un mini-catalogue. Ce sont d'autres articles,
condensé.
D'autres chercheurs, voilà, en général de jeunes doctorants, de l'École du Louvre, de la Sorbonne, d'autres universités françaises, de l'Île 3, bien sûr, où on a essayé aussi de faire le point d'une manière un peu différente. Ça complète le catalogue et c'est moins cher.
D'accord, très bien. Donc, merci Clément Pouels de nous avoir parlé de cette exposition et de nous avoir livré votre regard. Donc, je vous rappelle que cette exposition est disponible et est à voir jusqu'au 25 janvier au Palais des Beaux-Arts. Le lundi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 10h à 18h et le week-end c'est de 10h à 19h. Merci.
Alors juste avant de nous quitter, Clément Pouels, pourquoi cette passion des Français pour l'Égypte? Il semble que par rapport à d'autres civilisations, l'Égypte soit tellement considérée qu'il y a souvent des expositions, beaucoup d'ouvrages aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous relie, nous Français, à cette culture?
C'est vrai que l'égyptologie, c'est une vraie passion française, enfin c'est une passion occidentale en général, puisque lors de la naissance de l'égyptologie, qu'on peut fixer à 1822, lors du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Chapollion, qui lui déjà était un Français, donc ça a marqué une avance sur les autres pays. Il y a vraiment un engouement, oui, donc pour l'Égypte au XIXe siècle, par tous les pays occidentaux, que sont la France, l'Italie, l'Angleterre, qui montent des grandes expéditions très coûteuses pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Donc on avait bien sûr des méthodes archéologiques très différentes, qu'on appellerait maintenant peu orthodoxes, mais ça a permis de sauver pas mal de choses. D'étudier les sites, de lire pour la première fois des textes qui dormaient, des textes hiéroglyphiques hein, qui dormaient depuis 1500 ans, depuis qu'on ne savait plus les lire. Et c'est vrai qu'en France, on a cette grande passion de l'égyptologie. Mais ici, c'est la première exposition d'égyptologie au musée de Lille. Donc ça fait vraiment un événement. Et contrairement à d'autres expositions qui sont plus génériques sur les aspects un peu éternels de la civilisation pharaonique, là, on se cantonne à un pharaon en particulier. Donc on essaie de se démarquer.
Voilà, donc l'Égypte à portée de main, c'est l'occasion d'en profiter, au moins portée du regard. On rappelle cette exposition visible jusqu'au
25 janvier 2015.
Au Palais des Beaux-Arts.
Voilà, tout à fait.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, merci Louise Jouve. On se retrouve peut-être prochainement pour une chronique
oui,
ou
oui,
notre invité.
Avec plaisir. Oui.